Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous recevons Julie Graziani, écrivain et éditorialiste politique, régulièrement sur France Info TV, T18 et 28 minutes aussi. On peut vous voir régulièrement. Et auteur, je le rappelle, de « Tout le monde peut s'en sortir » aux éditions de l'Observatoire que vous aviez sorti en 2020. Ouais. Et le nouveau « Les escrocs, le blanchiment des idées sales » aux éditions de l'Artilleur qui est sorti en octobre 2025.
C'est ça.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci de m'avoir invité.
Vous avez un parcours, Julie, atypique, passant de l'enseignement à l'administration judiciaire d'entreprises en difficulté. Comment cette expérience professionnelle influence-t-elle vos analyses politiques aujourd'hui ?
D'une manière générale, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu un parcours assez varié dans mes centres d'intérêt, dans mes études et dans mes expériences professionnelles. Mm-hmm. La raison tient à ce que j'ai beaucoup de curiosité naturelle, donc j'aime bien...
Ce qui n'est pas donné à tout le monde.
En tout cas, j'aime bien investiguer différents milieux sociologiques, différents champs d'action, différents métiers. Je pense que... Alors, ça a pu inquiéter des gens. Je me rappelle qu'un de mes premiers entretiens d'embauche, j'avais un CV qui partait dans tous les sens et ça avait visiblement un petit peu affolé le recruteur. Mmh. Et à l'inverse, quand j'ai été recrutée par la personne qui m'a appris mon métier actuel, donc de m'occuper des entreprises en difficulté, lui, il y avait vu plutôt un plus. Mmh. Parce qu'il s'était dit que dans ce métier qui consiste à aider les entreprises... il fallait au contraire savoir être agile, s'adapter rapidement, analyser des situations différentes. Donc, pour répondre à votre question et comment ça a nourri mon engagement intellectuel, je pense que ça m'a appris, en tout cas, à voir que chacun pouvait avoir tendance à rester un peu enfermé dans ses biais, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les bulles cognitives. Même si c'est un mot un peu... mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et plus on fréquente des gens différents, plus on va dans des milieux différents, plus on a des activités variées, plus on arrive à se mettre à la place des autres, à regarder la réalité avec un peu leurs lunettes, ça rend globalement beaucoup plus tolérant, beaucoup plus indulgent d'une manière générale, et ça permet de créer des liens, de créer des ponts. Ça fait sans doute partie des raisons pour lesquelles vous avez cité les médias dans lesquelles je suis régulièrement invitée, alors même que je suis considérée comme une femme de droite, certains diraient même trop à droite, puisque j'ai aussi été très attaquée sur ces thèmes-là. Le fait est qu'aujourd'hui, je suis plutôt invitée dans des médias qui ont pignon sur rue et qui sont plutôt tendance centre, et je pense que qu'ils apprécient ça, et moi j'apprécie aussi qu'il y ait cette variété de points de vue. Qui soit représenté même dans ces médias dont on a pu dire aussi qu'ils ne recevaient pas des personnalités de droite, c'est pas vrai. Quand on arrive en mode décontracté, ça se passe très bien.
Et vous avez justement été impliqué dans des mouvements comme la Manif pour tous et l'Avant-garde visant à unir les droites conservatrices. Comment décririez-vous l'évolution de votre engagement politique à l'approche des échéances de 2027 ?
Oui, mon engagement à la Manif pour tous à l'époque, ça partait vraiment du sentiment qu'il y avait un courant de pensée qui avait tendance à traiter l'enfant comme un dû que l'enfant à naître. Vous savez aussi que j'étais à la marche pour la vie, j'étais porte-parole une année. Donc moi, en tout cas, c'était vraiment ça le cœur de mon engagement, de considérer l'enfant non pas comme le projet des parents, ou seulement comme le projet des parents, mais comme une personne à part entière qui peut arriver, pas arriver, et qui doit vraiment être respectée pour elle-même. J'ai été très blessée à cette époque-là, des accusations récurrentes d'homophobie à l'égard des gens qui s'engageaient dans la Manif pour tous, parce que encore une fois, c'était pas du tout l'angle, c'était pas le cœur de la motivation. Les sujets de procréation médicalement assistée sont d'ailleurs pas du tout réservés aux couples homosexuels, et c'est un sujet aussi, bien plus général. Ça j'ai trouvé ça blessant. C'était ma première expérience avec les accusations de mauvaise foi, les outrances, les dénonciations, l'ostracisation. Je trouvais ça très dur à vivre sur le moment. Mais bon, il fallait sans doute en passer par là aussi pour mûrir intellectuellement et politiquement. Après, je me suis donc rapprochée de ce courant qui visait à unifier les droites conservatrices. J'y ai vu d'autres défauts, en toute franchise. Je les ai trouvés aussi souvent un peu trop repliés sur eux, un peu trop dans une logique de citadelle assiégée, et surtout très anglais négativement sur les sujets d'islam et d'immigration. Et avec toujours une manière de décrire les choses constamment négative, constamment à charge, constamment accusatoire. J'ai pas aimé ça non plus, honnêtement, donc je m'en suis détachée progressivement, si bien qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'engagement politique du tout, et je m'épanouis au contraire dans un rôle d'éditorialiste, de commentateur, où j'ai beaucoup plus de liberté et d'indépendance pour pointer du doigt les petits travers des uns et des autres, plutôt avec
Plus
humour,
librement.
voilà, et puis bon, sans non plus accabler, parce que c'est pas l'état d'esprit. Mais j'aime bien le côté vigilance un petit peu corrosive, mais encore une fois sans accabler, parce que je reste convaincue que tous les courants de pensée peuvent évoluer, peuvent se bonifier, et que, comme on le verra peut-être plus tard dans la suite de l'interview, il y a toujours un mélange d'idées saines et d'idées sales.
Tout à fait. Dans votre dernier livre, vous appliquez les méthodes de lutte contre les escroqueries financières au monde des idées et de la politique. Pouvez-vous nous expliquer ce concept de blanchiment d'idées sales et donner un exemple concret tiré de l'actualité récente comme les débats sur le budget 2026?
Oui, volontiers. Alors, ce que j'ai appelé les idées sales, c'est par référence à une formule qui est bien plus connue dans le grand public, qui s'appelle le blanchiment de
Blanchiment.
l'argent sale. Donc, l'argent sale, c'est un argent qui est le produit d'activités illicites et qui doit être réinséré dans le circuit légal si les trafiquants veulent pouvoir s'en servir commodément. Donc, par analogie avec ce mécanisme, j'ai théorisé qu'il existait des idées peu reluisantes, qui sont en général un peu toujours les mêmes, hein, la cupidité, l'appât du gain, l'envie, la jalousie et la volonté de pouvoir, la volonté de domination sur les autres. Voilà, ça va faire un peu le fond commun de toutes ces idées. Pour avancer dans le débat et s'imposer, bien évidemment, personne se lève un beau matin en disant j'ai très très envie de vous prendre de l'argent, je suis très jaloux de votre situation et je souhaite exercer ma domination sur vous. Personne ne dit ça, ça ne marcherait pas. Quand ce type de motivation a besoin d'avancer, elles avancent masquées. Et le meilleur masque, c'est celui de l'idée généreuse. C'est pour ça que je disais qu'on a souvent un mélange d'idées saines et d'idées sales. Et l'idée saine est le paravent qui permet aux pulsions inavouables de progresser sans attirer l'attention, voire même en ralliant à leur cause des gens qui, de bonne foi d'ailleurs, vont être convaincus par l'affichage. Alors, pour l'appliquer un exemple concret et récent, tant qu'à faire, j'ai trouvé intéressant, et d'ailleurs c'est pas dans le livre puisque c'était trop récent, la manière dont le 49-3 a
On
été
doutait.
dénoncé, puis, à l'occasion d'un revirement spectaculaire, hein, essayez pas de reproduire ça à la maison, c'est réservé aux professionnels, finalement remis sur la table comme une option légitime d'adoption du budget. Donc, en substance, tant que un budget comportait des éléments qui étaient considérés comme trop libéraux, économiquement trop de droite, la gauche tirait dessus en disant à boulet rouge, en disant vous voyez bien, si vous le faites passer ce budget en utilisant le 49-3, c'est antidémocratique, c'est autoritaire et c'est brutal. Et confronté cette fois à un budget comportant des éléments qui allaient dans leur sens idéologiquement et confronté à l'impossibilité de le faire adopter autrement que par le 49-3, tout à coup, le 49-3 devient une manière normale, démocratique, régulière, légitime, institutionnelle d'adopter le budget. Donc là, on voit bien que l'outil est attaqué ou défendu selon ce qu'il permet de faire passer et que ce qui compte, donc, c'est pas la manière dont le bateau avance, c'est la cargaison qu'il y a dans le bateau. Donc, chaque partie va faire avancer plus ou moins en fonction de la cargaison idéologique du bateau.
Juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Julie Graziani, vous dénoncez dans votre ouvrage les manipulations idéologiques qui gangrènent le débat public. Comment cela se manifeste-t-il dans l'éducation de la jeunesse française, où l'on observe une baisse du niveau scolaire et une difficulté à débattre sans s'énerver, comme vous l'avez évoqué par exemple sur Europe 1 l'année dernière?
Dans la schématisation, la simplification et l'outrance qui en fait partie. Pour faire simple, mais pas trop simple non plus justement, puisque je ne veux pas moi-même verser dans le travers que je dénonce, une idéologie consiste à simplifier abusivement une réalité complexe pour apporter aux destinataires de cette idéologie des réponses présentées comme extrêmement simples, extrêmement séduisantes, faciles à mettre en œuvre. Donc c'est fait pour embarquer les gens sans qu'ils se posent trop de questions. Si bien que plus une population manque d'exposition à de la variété d'idées, de mots et de situations, hein, c'est ce que j'expliquais en préambule, plus elle va être vulnérable à l'idéologie parce que les ressources intellectuelles internes ne sont pas suffisamment élaborées et aiguisées pour avoir cette réaction un peu défensive, que si vous me proposez une solution trop simple, normalement je dois vous répondre, mais vous êtes sûr que c'est aussi simple? Et dans tel cas, ça se passe comment? Bon. Et donc l'appauvrissement du niveau scolaire, bien sûr, prédispose nos concitoyens à être davantage impactés, influencés par des idéologies. Si un élève est exposé à des lectures très vastes, très riches, à un vocabulaire nuancé et à une culture générale diversifiée, il sera forcément moins vulnérable, il aura le recul, il aura la profondeur de champ nécessaire pour remettre en question ce qu'on peut lui dire. Et l'école aujourd'hui tend à négliger ce qu'on appelait autrefois les humanités. Les humanités, c'était vraiment ce qui vous permettait de passer d'un champ de connaissance à un autre de manière assez agile, en faisant aussi des transpositions. Par exemple, tiens, j'ai vu ça en histoire, comment ça éclaire le cours de philosophie. Ou alors, il y a aussi cette notion qu'ils essayent de mettre en place, vous savez, de thématiques entre différents cours. Donc, en soi, c'est très, très bien. Sauf que de ce que j'ai pu observer dans les cours des enfants, ça a tendance à être une thématique qui est déclinée en histoire, en philo, en littérature, etc. Mais on a l'impression que c'est plus fait pour marteler la thématique que pour aller chercher des exceptions, des dérogations, des cas où ça ne s'est pas passé de cette manière-là, ou aller mettre de la nuance. Hein. Donc, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais ils ne le font pas toujours de la bonne manière. Et l'intérêt des humanités, c'est que justement, on ne cherchait pas à marteler une thématique. On exposait naturellement l'élève au grec, au latin, au français, à l'ancien français, à l'histoire, à la philo, aux sciences aussi, un petit peu comme un buffet où tout se trouve et où l'élève pouvait picorer naturellement sans qu'on le guide à choisir forcément tel ou tel plat. Et ça s'est pas mal perdu. L'autre élément qui joue, c'est que on a tendance à insister sur l'acquisition des compétences à l'école. Et là, de la même manière, bon, les compétences, voilà, c'est très bien pour en avoir dans tel ou tel domaine, mais ça ne permet pas d'avoir ce lien. C'est cette culture globale qui, encore une fois, est la seule qui constitue un antidote aux idéologies parce qu'elle vous permet tout de suite d'aller chercher dans votre cerveau la référence où ce qu'on vous dit n'a pas marché, n'est pas vrai, était plus compliqué que ça, et ainsi de suite.
Et lors de votre entretien avec Omerta, je voulais revenir là-dessus, c'était en début d'année, hein, Vous avez insisté sur le fait que les idées aussi sont victimes des escrocs. Quelles sont les idées sales les plus répandues aujourd'hui et comment les détecter dans les discours médiatiques ou politiques?
Alors, moi, j'identifie qu'il y a quand même, dans beaucoup de combats progressistes ou dits progressistes, une volonté de domination qui ne dit pas son nom. Dans le combat antiraciste, c'est tout à fait prégnant, puisque les associations qui luttent, qui promeuvent ce combat, qui sont estampillées légitimes à en parler, ont tendance à imposer la méthode d'action qu'elles souhaitent voir la population adopter. Or, sur des sujets comme le racisme, l'homophobie, la lutte contre les discriminations d'une manière générale, si on voulait réellement être efficace, on devrait au contraire laisser chacun beaucoup plus libre de son engagement, de sa propre méthode de lutte, et ne pas imposer des schémas d'action déterminés. Donc, si je parviens à démontrer à un militant qu'il y a mille manières, enfin qu'on partage un objectif commun, mais qu'il y a mille manières d'y arriver, et que pour des simples raisons d'efficacité, je dois être laissé libre de ma méthode à moi, mais qu'il insiste pour que ce soit sa méthode à lui qui l'emporte sur la mienne, là, je sais qu'en réalité, ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment de faire progresser la cause qu'il défend, c'est d'imposer et donc d'être dans la volonté de pouvoir et donc d'être dans la domination.
Le budget, Julie, 2026 fait l'objet hein, de vives controverses avec des motions de censure évitées de justesse pour des ministres hein, comme Sébastien Lecornu. Vous avez critiqué les promesses de taxer les ultra-riches qui finissent par toucher les classes moyennes. Comment réformer la fiscalité pour protéger des Français ordinaires sans décourager l'investissement?
Oui, alors ça, c'est une manipulation intellectuelle qu'on voit systématiquement revenir dans la pensée de gauche. Déjà, François Mitterrand l'avait utilisé avec beaucoup de succès. Le schéma narratif est toujours le même. Hein. Donc, c'est juste par François Mitterrand, par François Hollande, et à chaque fois, ça revient. Le schéma narratif, c'est d'abord d'aller pointer du doigt les ultra-riches. Donc, la population, d'une manière générale, comprend, c'est une poignée de personnes, ça ne me concerne pas du tout. Et effectivement, ils sont tellement riches que la dose qu'on va leur prendre, ils ne la verront même pas passer. Une fois que l'idée est bien installée, ce qui se passe en fait, c'est que ces fameux ultra-riches, qu'on a d'ailleurs du mal à définir totalement, eux, de toute façon, c'est une population extrêmement mondialisée, qui a ses avoirs un petit peu partout et qui est assez peu touchée par des décisions de taxation que prendrait l'État français. Donc, quand la décision est prise, et c'était par exemple quand François Hollande avait décidé d'imposer tous les salaires au-dessus du million, ils se sont très vite rendus compte que ça ne marchait pas. On l'avait appelé d'ailleurs à un moment la taxe football parce qu'ils s'étaient rendu compte que les seuls qui seraient vraiment visés, ça serait les joueurs de football qui étaient les seuls à avoir des rémunérations à ce niveau-là. Donc la réalité étant têtue, ce qui s'est passé, c'est que tous les clubs ont dit mais enfin, ça veut dire qu'on n'embauchera plus les joueurs de football en France et qu'on ira à l'étranger et qu'en fait c'est nos joueurs de football qui seront pénalisés par la situation. Bon, bref, et de là le Conseil d'État en plus en a rajouté une couche en disant bah non, effectivement ça va pas, comme la taxation à 75% des revenus au-delà d'un certain seuil, c'est trop confiscatoire, ça ne fonctionne pas. Donc la gauche se retrouve avec une promesse de campagne qui est inapplicable pour des raisons quand même constitutionnelles et même pour des raisons d'efficacité pratique. Mais elle a toujours besoin d'argent. Et puis, elle a promis qu'elle allait restaurer les finances publiques. Donc, que fait-elle? Elle a tendance à aller en dessous et à descendre d'un cran. Donc, on commence avec la promesse de taxer les ultra-riches. À l'arrivée, les ultra-riches ne sont jamais taxés. Et ceux qui sont taxés, c'est ceux sur lesquels l'État a véritablement la main. Et là, ça devient beaucoup plus ennuyeux parce que ça se met à toucher beaucoup plus de personnes. Et donc, on va passer à des discours du style « on est riche à partir de 4000 euros ». Ce qui n'a pas de sens en comparaison de ces fameux ultra-riches. Enfin, je veux dire, l'échelle est complètement incommensurable. C'est bien les forces vives productives de la nation qui, là, commencent à être pénalisées. alors même qu'elles n'avaient pas du tout réalisé au début de la promesse ou de l'engagement politique que ça serait bien elles, à la fin de la journée, qui seraient visées. Et donc ça, c'est vraiment une manipulation qu'on retrouve à chaque fois et dont il faut comprendre que plus elle se répète, plus c'est les forces productives qui sont pénalisées systématiquement et qui, du coup, produisent moins ou moins bien.
Et sur les réseaux sociaux, vous avez réagi à la disparition des bistrots et bars tabac, symbole de la culture française, face à cette érosion du patrimoine. Que proposez-vous en fait pour préserver les traditions face à la mondialisation et aux changements sociétaux ?
Oui, alors j'ai réagi en soulignant que l'UNESCO pensait inscrire au patrimoine mondial de l'humanité ce patrimoine immatériel qui est celui des bistrots et bars. Oui, parce que ça veut dire que moi j'ai toujours à cœur de m'inscrire dans une démarche qui consiste à accepter la concurrence. Il n'y a pas critiqué le concurrent. C'est un peu une logique entrepreneuriale. Quand vous avez un produit, vous pensez qu'il est bon, le concurrent, il a un autre produit. Donc, ça peut être un produit sociétal, ça peut être un produit culturel, ça peut être un produit de mœurs, d'habitudes de vie. Je pense que c'est complètement contre-productif de critiquer le concurrent. Et je pense qu'il faut faire aimer son propre produit. On est aujourd'hui dans une France, moi, que j'analyse comme multiculturelle, Et ça ne me gêne pas. Je trouve que c'est plutôt sain d'avoir des modèles qui coexistent. C'est enrichissant, c'est divers. Enfin, moi, ça colle avec moi. Je sais que ce n'est pas toujours la ligne en droite conservatrice. Ce que j'observe, c'est que plus on est à l'aise, fier de son produit culturel et qu'on a à cœur de le faire découvrir, aimer et connaître, mieux c'est pris. Si au contraire, on se replie dans une logique défensive et hostile à l'égard des offres culturelles concurrentes, ça crée des tensions inutiles et c'est votre propre produit qui finit par être impacté parce qu'il acquiert un aura de négativité qui est un petit peu repoussoir.
Et vous avez défendu, Julie Graziani, l'idée que les femmes fortes n'ont pas besoin de se plaindre de mansplaining. Lorsqu'on les contredit dans un contexte où les débats sur le genre et la famille sont vifs, comment encourager une responsabilité personnelle, comme vous l'avez prôné dans vos ouvrages précédents ?
Oui, là, il y a vraiment une contradiction intrinsèque au féminisme aujourd'hui. J'indique aussi dans le livre que quand vous voyez des contradictions récurrentes et persistantes, c'est souvent le signe qu'on est en train de vous manipuler. Parce que c'est pas clair. Le féminisme aujourd'hui se désole à la fois de ce que les femmes ne soient pas plus fortes ou mieux considérées, tout en les installant systématiquement dans un rôle de victime et de faible femme. Et là, il y a une contradiction qui entretient la victimisation et le sentiment de faiblesse des femmes, dont après des prédateurs ou des agresseurs pourront tirer avantage. J'aurais en effet plutôt tendance à dire et à rappeler que c'est très important pour faire échec aux agressions, aux tentatives de prédation, de se concevoir soi-même comme une femme forte et donc de pas s'installer dans cette posture victimaire, systématiquement désolée, systématiquement accusatoire. Mais d'intégrer une vraie force féminine qui fait que oui, on est tout à fait capable de, comme disent les Américains, stand up for yourself, j'ai pas de bonne expression en français pour ça, vous voyez, mais de s'imposer.
D'accord. Malheureusement, il nous reste 2 minutes, je vais poser quand même une dernière question. 2026 est une année décisive pour la France, comme vous l'avez dit en décembre 2025 à propos de la fin du mandat Macron. Quelles sont vos prévisions pour les droites conservatrices et comment éviter les pièges des escrocs intellectuels dans la campagne présidentielle à venir, Julie Graziani ?
Les droites conservatrices seront accusées, comme elles le sont toujours par la gauche, de tout un tas d'épithètes infamantes, donc extrême droite, fasciste, etc. Et j'en passe, enfin, vous les connaissez bien. Les accusateurs sur ces thèmes-là, ce ne sont pas eux qu'il faut convaincre, parce que de toute façon, ils continueront à formuler les mêmes accusations, c'est leur méthode, c'est des accusations qui ne sont pas de bonne foi, ou pas toujours du moins, et vous ne convainquez pas quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. C'est une perte d'énergie, ça ne sert à rien.
Ah bon.
Mais ce ne sont pas eux les interlocuteurs pour les droites conservatrices. Les droites conservatrices doivent calmement démontrer s'adresser à la population française, sans se sentir obligée de se justifier systématiquement, mais avec un discours qui soit sobre, qui soit sain, qui soit simple. Et c'est comme ça que, qu'elles parviendront à réunir davantage d'électeurs, mais encore une fois avec du positif.
Eh bien, écoutez, Julie Graziani, malheureusement, ça passe très vite. Hein, ce sera le mot de la fin. Je rappelle donc que vous êtes écrivain, éditorialiste, politique, hein, régulièrement. Donc, je le rappelle quand même, hein, sur France Info TV, T18 et 28 minutes. Hein. Donc, auteur, je le rappelle aussi, de Tout le monde peut s'en sortir aux éditions de l'Observatoire. Et donc, votre nouveau, Les escrocs, le blanchiment des idées sales aux éditions de L'Artilleur. Bah, écoutez, encore merci. J'espère vous revoir et vous. Voilà, pouvoir vous réinviter très vite.
Oui, merci de votre invitation.
Avec grand plaisir. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.